en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le lundi 22 février 2010, devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance, M. Philippe Sellier, professeur émérite à Paris 1 Sorbonne, a donné une communication intitulée « Qu'est-ce qu'une secte ? Essai de définition méthodologique ». Cette communication entrait dans la série « La démocratie », thématique choisie par le président Jean Ménard pour l'année 2010. Canal Academy a enregistré pour vous cette séance. Écoutez-la.
La notion de secte fait partie des plus controversées depuis une trentaine d'années. Je vais donc m'aventurer sur un terrain périlleux, mouvant. Je vous proposerai un certain nombre de réflexions. Qu'est-ce qu'une secte, donc, essai de définition méthodique ? Vous le savez, la question des sectes s'est imposée en France à la vigilance de l'opinion au cours des années 1980. Cela pour deux raisons principales. D'une part, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'ont cessé d'affluer en Europe des groupes fermés et mal connus, en provenance d'abord des États-Unis, puis de l'Extrême-Orient. Mais la seconde raison est de loin la plus grave. Elle réside dans la multiplication des faits divers tragiques, des catastrophes, qui se sont accumulés depuis au moins 1978. Je vous rappelle simplement des faits que vous connaissez très bien, je pense. Personne n'a oublié en effet les 923 morts par empoisonnement de la secte du Temple du Peuple, dont 260 enfants, autour de son gourou Jim Jones, le 18 novembre 1978, dans l'ancienne Guyane britannique. L'année suivante, 9 membres de l'Église de Scientologie sont condamnés aux États-Unis pour avoir détourné des documents ministériels. Et le dictionnaire des sectes d'Annick Drogou, en 1998, recensait déjà sur 8 pleines pages tous ces faits divers et catastrophes survenus depuis 30 ans. Parmi les plus connus, les morts de Waco au Texas, ceux de l'ordre du Temple solaire, et au Japon, les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo, par la secte Aum Shinrikyo. Ce nouveau paysage a expliqué l'intervention des autorités politiques et celle de l'Église catholique. En France, le député Alain Vivien a remis au Premier ministre Pierre Mauroy, en 1983, le premier rapport public sur les sectes. Ce rapport a été publié en 1985, rendu public plus exactement, en 1985. Le 3 mai 1986, paraît à Rome un rapport de synthèse fondé sur les réponses de 75 conférences épiscopales à un questionnaire. Le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux, défi pastoral. À la fin de 1995, est publié le rapport très riche de la commission parlementaire Geste-Guyard, qui établit une liste en partie controversée de 172 sectes et qui suscite la création d'une mission interministérielle auprès du Premier ministre, la MILS. Alors, je reprendrai ces abréviations un peu plus tard. Donc, la MILS, qui a connu une existence éphémère et qui va être remplacée à partir de décembre 2002 par la MIVILUD, alors ces sigles aussi, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Cette MIVILUD doit présenter chaque année au Premier ministre un rapport sur les sectes et elle est présidée depuis le 23 septembre 2008 par l'ancien magistrat et ancien député Georges Fenech. La secte apparaît désormais comme un fléau social. Mais sous quel angle fallait-il l'étudier ? Historique, sociologique, psychologique, médiatique, juridique, politique, religieux. Je vais privilégier une approche qui sera d'abord linguistique et historique, avant d'en venir évidemment aux débats actuels. Si le mot secte est maintenant partout et paraît de noir, de quoi s'agit-il exactement ? Voici le paradoxe sur lequel nous avons à réfléchir. Le terme de secte est utilisé par tout le monde, y compris par les juristes, qui commencent cependant par dire qu'il n'en existe pas de définition juridique. Il est presque comique de voir intitulé « Les sectes et le droit », un colloque passionnant qui s'est tenu à Strasbourg fin des années 90. Alors, colloque où l'on ne cesse d'avouer que l'on n'a pas défini ce dont tous les orateurs ne cessent de parler, et où l'on croit s'en tirer en mettant dans le titre « secte » entre guillemets, « les sectes » entre guillemets et le droit. Dans le champ politico-administratif, je me contenterai d'un seul exemple. Le 25 novembre 1993, M. Sarkozy, alors ministre du Budget, interrogé sur l'extension éventuelle de l'exemption de taxes foncières dont bénéficient les grandes religions établies, répond au Sénat. Il ne s'agit en aucun cas d'étendre le bénéfice de cette disposition aux sectes. On souhaiterait bien du plaisir aux fonctionnaires chargés d'appliquer cette belle déclaration si, en fait, ne fonctionnait pas sourdement en France une coupure entre cinq religions acceptées et tous les autres mouvements religieux ou ésotériques. Ce privilège, donc, en faveur du catholicisme, de la fédération protestante, du judaïsme, de l'islam et du bouddhisme, s'affiche à la télévision avec les cinq émissions du dimanche matin sur France 2, chaîne publique. Devant une telle confusion, est-ce qu'une enquête sur les sens successifs qu'a pris le mot « secte » ne nous aidera pas à projeter quelques lumières ? Nous pourrons progresser assez rapidement sur les deux sens les plus anciens, même s'ils ont laissé un sillage très important jusqu'à nous. Il nous faudra nous attarder un peu plus sur la définition sociologique élaborée par Max Weber et Ernst Troeltsch au début du XXe siècle, car certaines de ses caractéristiques demeurent éclairantes. Force sera pourtant de dépasser, tout en les assumant partiellement, ces trois sens longtemps classiques, parce que ce que nous vivons, ce que nous visons aujourd'hui sous le terme de secte, comporte des éléments en partie nouveaux. Je commence donc avec une première courte section que j'ai intitulée « Le règne des étymologies ». Le sens le plus ancien du mot « secte » s'éclaire tout à fait, de façon limpide, par son étymologie. Le mot a été formé sur le verbe latin « sequi », participe passé « secutus »,« secuta », »,« secte ». Il désigne, et cela déjà chez Cicéron, une école de pensée, ceux qui suivent tel maître. Le terme ne présente aucune nuance péjorative, mais on peut évidemment le charger d'opprobre si l'école de pensée dont il est question est attaquée. C'est le cas, par exemple, des chrétiens dans les Actes des Apôtres, lorsque saint Paul comparaît devant le gouverneur Félix, où les chrétiens sont traités de secte avec, évidemment, une intention malveillante. Mais cet usage parfois polémique n'attente pas à la neutralité foncière du mot, au point qu'à maintes reprises, les chrétiens eux-mêmes se sont désignés comme la secte du Christ. Ce sens va perdurer 20 siècles. Pascal parle des diverses sectes des stoïques et des épicuriens. Le dictionnaire de Furtière, en 1690, distingue en théologie les sectes de saint Thomas et de Duinscott. L'orientaliste Pétis de la Croix, en 1710, dans Les Mille et un jours, parle de la secte de Mahomet, sans la moindre défaveur. Et le crépuscule le plus imposant a été offert à ce premier sens ancien avec la monumentale histoire des sectes du célèbre abbé Grégoire en 1728. Et dans cette histoire des sectes, pour bien montrer quel est le sens, on trouve la secte de Kant. Ce que cette acception nous a laissé en héritage, c'est l'idée que la secte se forme autour d'un maître. Et cette acception-là va perdurer jusqu'à nous. Or, un maître peut aider soit à l'épanouissement d'une personnalité libre, soit au contraire aliénée. Et c'est cette possibilité menaçante qu'exprime aujourd'hui le terme indien de « gourou ». Dans la secte du Mandarome, près de Castellane, Gilbert Bourdin, qui s'était proclamé messie cosmoplanétaire, réincarnation du Christ, puis du Bouddha, et réapparition du Mahdi pour l'islam, se faisait célébrer par cette prière « Gloire à notre gourou, il est Dieu lui-même, qu'on bénit et qu'on aime et qu'on sert à genoux ». Heureusement, le Messie cosmoplanétaire est mort à temps en 1998, sans attendre le verdict d'un procès où il devait répondre de 15 accusations de viol sur mineur. Mais pendant longtemps, il faut le rappeler pour terminer cette petite section, les maîtres des sectes ont été des personnalités de grande envergure, comme Platon, Aristote ou le Christ lui-même. Il y a donc un sens, et même dans le Robert aujourd'hui, ce sens est dit vieux, mais il est toujours mentionné. Deuxième petite section à propos de ce règne des étymologies, la secte comme rupture. L'expansion du christianisme a établi donc une église extrêmement puissante, et c'est avec cette expansion de l'église catholique que le mot secte va se charger d'un sens nouveau. Il va désigner de façon polémique les groupes déviants. Et à partir de ce moment-là, peu à peu, on va attribuer au mot une nouvelle étymologie, qui est fantaisiste, bien entendu, mais qui est très parlante. Au XIIIe siècle, pour le français, le sémantisme de la séparation va faire imaginer donc que le mot secte vient de sécare, latin, couper, retrancher, et va marquer le fait que le groupe sectaire se retranche de la société considérée comme normale ou dominante. Cette conception péjorative de la secte va, elle aussi, laisser un sillage durable jusqu'à nous, avec l'insistance sur le groupe fermé, la rupture avec l'environnement global, considéré comme normal. Cette conception négative de la secte, on la trouve encore en 1954 dans un ouvrage du père dominicain Chéry, L'offensive des sectes, qui a été célèbre parce que c'était le premier grand cri d'alarme sur le pullulement des groupes sectaires. Mais ce qui étonne dans le livre du père Chéry, c'est qu'il ne tient aucun compte d'un nouveau sens, d'une nouvelle définition de la secte, qui est due à Max Weber, comme je le disais, définition qui était quand même ancienne de plus de 40 ans, donc un peu surprenant. Je vais passer maintenant dans une deuxième section à la définition sociologique de la secte. Vous le savez, le début du XXe siècle a été marqué par de grands travaux de sociologie religieuse. Je rappelle simplement Durkheim, mais Max Weber aussi, et Ernst Troeltsch, absolument contemporains, ils sont morts tous les deux au début des années 20. Les deux derniers, donc Weber et Troeltsch, amis très proches, nous ont légué la définition sociologique de la secte. Weber a commencé en 1905, dans son ouvrage le plus connu, « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Cette esquisse a été développée par Troeltsch dans un très grand livre qui s'appelle « Les enseignements sociaux des églises et des groupes chrétiens »« Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen ». Et c'est en s'appuyant sur Troeltsch que Weber va reprendre les développements sur la secte dans ses ouvrages suivants qui sont « L'économie et société » et « Sociologie des religions ». Ce que les deux sociologues veulent faire, c'est mettre de l'ordre dans le foisonnement des groupes religieux, mais sans s'interroger sur les croyances. Ils vont les étudier à partir de leur mode d'organisation et de recrutement, et à partir aussi de leur rapport à la politique et à l'économie. Ils aboutissent à des types idéaux, dans lesquels les groupes concrets ne s'incluront que plus ou moins. Et d'autre part, il faut être très conscient que ces deux théoriciens ne travaillent que sur les groupes chrétiens. Et là, c'est une grosse différence par rapport au phénomène contemporain. Alors, très rapidement, donc, qu'est-ce que l'Église ? L'Église est une société qui préexiste à ses membres, comme la nation ou l'ethnie. L'humanité corrompue par le péché ne peut accéder à la pureté du royaume de Dieu que par l'Église, qui s'est vue confier par son fondateur divin la réalisation de l'œuvre du salut, et cela pour tous les hommes. L'Église, unie au Christ, d'où tout procède, assure à tous, par les sacrements, la transmission de la grâce. Elle est, comme dit Weber, une institution pour la grâce. Gnadenanstalt. Elle doit pénétrer toutes les cultures, tous les pays, et suivre la vie humaine pendant tout son cours, et cela dès la naissance, par le baptême. Pour réaliser une tâche aussi ambitieuse, l'Église a besoin d'un accord du pouvoir politique, à tout le moins de ne pas se heurter à une trop vive hostilité. Elle va donc pour cela procéder à des compromis et à des alliances. Consciente du règne du péché dans le monde, l'Église est en quelque sorte plébéienne. Elle accueille tout le monde. La conséquence s'ensuit, ses exigences vont paraître souvent minimales. Et il va se développer dans le cours de l'histoire de l'Église des conflits continuels entre les tenants de la pureté évangélique et ceux qui sont pour l'entrée du plus grand nombre. C'est à ce type très reconnaissable, l'Église, que s'oppose le type secte. Et je vous lis ici quelques phrases de Max Weber dans Sociologie des religions. Pour être telle, une secte doit nécessairement, dans son esprit et sa nature, renoncer à l'universalité. Elle doit reposer sur un accord totalement libre de ses membres, et il doit en aller ainsi parce que la secte est une formation aristocratique, une association de personnes pleinement qualifiées religieusement. N'entrent dans la secte que des croyants régénérés, par exemple les born again du baptisme américain. Cela par une décision individuelle. Le groupe est purement contractuel. On oppose en ce sens la secte comme Gesellschaft à l'Église comme Gemeinschaft en allemand. Il n'y a pas de ministère ordonné, pas de médiation par rapport à l'Écriture, ni dans l'acquisition de la grâce. Le maintien de la pureté est assuré par la surveillance mutuelle et au besoin par l'exclusion. Comme ne tiennent lieu de leader que des croyants choisis par le groupe et dont la tâche est surtout d'exhortation, il n'est nul besoin d'un corps de théologiens longuement formés, ce qui explique le caractère souvent simpliste de la dogmatique de certaines de ces sectes chrétiennes. Et Trulsch trouvait que ce fait était cohérent avec un autre fait qui est que les sectes, selon lui, se recrute surtout dans les classes sociales inférieures. À la pureté de la secte s'oppose la corruption du monde extérieur, d'où le fréquent repli sur le groupe. La secte refuse de se compromettre avec les instances de l'État, elle condamne la culture ambiante, elle met des bornes à la participation de ses membres à la vie civique. C'est le cas bien connu des Témoins de Jéhovah, refusant le service militaire, etc. Pour conclure sur cette définition sociologique, à la négociation caractéristique de l'Église s'oppose la sécession de la secte, qui se coupe du groupe social. Que penser aujourd'hui brièvement de cette typologie sociologique ? Je m'en tiendrai à deux reproches principaux. Le premier reproche, cette théorie sociologique passe étonnamment sous silence le gourou. Je crois que cela s'explique par le fait que Max Weber a été beaucoup frappé par le baptisme en particulier américain, qui est congrégationaliste et qui donc est dirigé collectivement en quelque sorte. Et donc, d'où l'absence du gourou, qui évidemment est très gênante pour analyser le phénomène sectaire aujourd'hui. Mais la critique la plus sévère est la suivante, la carence. C'est que dans cette analyse sociologique, on néglige les victimes. Il n'est pas question des victimes, on n'en parle jamais. Et cette indifférence vous permet de comprendre que les groupes de défense des victimes des sectes aujourd'hui soient souvent à couteau tiré avec les sociologues. Ils considèrent que les sociologues sont complaisants, sinon complices, On cite même des cas de sociologues rémunérés par les sectes pour faire des enquêtes. Donc les associations sont extrêmement hostiles, souvent aux sociologues. Alors je vais aborder maintenant ces trois sens étant précisés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est que beaucoup de choses ont changé et que aucun de ces trois sens à lui seul, maintenant, ne peut plus convenir. Alors, ce changement de sens, au cours des années 1980 et 90, il a été pris très vite en compte par les dictionnaires. Quels sont les sens du petit Robert en 77 ? Deux sens, ensemble de personnes qui professent une même doctrine, donnée comme vieux, c'est le sens sur le latin sequi. Et ensuite, deuxième sens, groupe dissident au sein d'une religion, avec comme exemple sectes protestantes, sectes hérétiques. Si vous avez la curiosité d'ouvrir le même petit Robert en 2000, vous apercevez qu'on a adjoint à ces deux sens un troisième, communauté fermée, d'intention spiritualiste, où des guides, des maîtres, exercent un pouvoir absolu sur les membres. Et alors les exemples, les religions luttent contre les sectes, ce qui est vrai, sectes d'inspiration orientale, la secte Moon, le gourou de la secte. À la lumière de cette évolution, un premier constat massif s'impose. Pour nous, la ligne de démarcation entre Église et secte, selon Weber, a changé. À savoir que personne aujourd'hui, je crois, ne rangerait plus les baptistes parmi les sectes. Donc, la ligne de démarcation s'est déplacée. En effet, nous distinguons nettement aujourd'hui entre réformateurs et gourous. Donc, tout ce qui relève d'un mouvement de réforme, dans certains cadres, va être considéré comme église. Alors, nous pouvons suivre sur ce point une autorité qui est hautement respectable, c'est le Conseil œcuménique des Églises, qui accueille, comme vous le savez, 342 dénominations, toutes foncièrement chrétiennes, mais avec les exigences suivantes, recevoir comme parole de Dieu toute la Bible, et rien que la Bible, ça exclut les Mormons, par exemple. D'autre part, recevoir le symbole de foi de Nicée-Constantinople, ce qui est beaucoup, puisque c'est affirmer à la fois le mystère trinitaire du Dieu unique et l'incarnation du Christ, Fils de Dieu. Cela étant, il faut aussi, pour entrer au Conseil œcuménique, avoir compté au moins 50 000 membres. Vous avez donc un ensemble de critères qui fait qu'aucune secte, ce que nous appelons secte en tout cas, ne peut entrer dans ce conseil. On aboutit à un sens large du mot « église », comme vous le voyez, qui va accueillir les anglicans, aussi bien que les quakers, les baptistes, les méthodistes, l'armée du salut est reconnue, les luthériens ou les adventistes. Autrement dit, si vous lisez Weber, vous voyez que pour lui, les adventistes, les baptistes, tout ça, ce sont des sectes. Or, pour nous, plus du tout. Il y a donc le glissement est énorme. La conceptualisation de Weber et Treuil se trouve ainsi en partie mise à mal, et nous avons assisté à un élargissement de l'Église. Si nous voulons progresser maintenant vers une définition absolument contemporaine de la secte, il nous faut écarter d'abord une tentation, celle de tenir compte des contenus de croyance des groupes en question. Chacun de nous peut à part soi considérer que les affabulations de Claude Vorillon, alias Raël, que ces affabulations sur les extraterrestres sont des impostures, hein, ou que les tétans, chers aux scientologues, sont un roman pseudo-métaphysique, mais l'État ne peut pas juger des croyances des citoyens. Mais il doit quand même réagir en face des dangers que certaines sectes peuvent susciter, dangers pour autrui, et danger pour la société ou l'ordre public. En décembre 1995, la commission Geste-Guyard, commission parlementaire, avait élaboré une liste de 172 sectes. sur la base de listes de fiches des renseignements généraux. Des maires se sont alors mis à refuser des prêts de terrain ou des locations de salles aux groupes épinglés par cette liste, ce qui a suscité une vive polémique et on a dénoncé les à peu près du travail des renseignements généraux. On a cru éluder la difficulté en parlant de nouveaux mouvements religieux. Mais maintes sectes n'ont absolument rien de religieux. Il y a beaucoup de groupes de psychothérapie. Et d'autre part, maints groupes suspects ne sont pas nouveaux. Je rappelle, par exemple, que les Témoins de Jéhovah remontent à 1874. Beaucoup plus intéressante est la perspective qui a été adoptée par la MIVILUDE, cette mission interministérielle de vigilance dont j'ai parlé tout à l'heure. Celle-ci, constatant l'extrême difficulté de définir de façon concise et rigoureuse le mot « secte », a jugé suffisant de reprendre les indices suspects qu'avait élaboré la commission Geste-Guyard. 10 indices suspects, dont je vous donne les principaux, déstabilisation mentale, caractère exorbitant des exigences financières, rupture induite avec l'environnement d'origine, atteinte à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, etc. Et la MIVILUDE va même ajouter à ces 10 critères 8 autres critères, comme en particulier le non-respect des conventions internationales signées par la France. Que fait la MIVILUDE ? C'est à propos de ces indices qu'elle parle de dérive sectaire. Elle veut éviter le terme secte. Et je vais y revenir parce que je crois qu'elle n'y parvient pas tout à fait. Elle parle de dérive sectaire, elle va traquer ces dérives, elle établit des dossiers d'enquête sur tous les groupes qui lui sont soumis, quitte à manifester d'ailleurs la totale innocuité de certains de ces groupes. Et, nouveauté par rapport à la commission Geste-Guyard, elle a auditionné les responsables des groupes en question et leur défense figure dans le dossier de chaque groupe. Et c'est cet ensemble de dossiers qu'elle appelle un référentiel. Alors vous me direz, référentiel, liste, il y a eu des tas de débats là-dessus et il y a eu des réactions violentes quand la presse a parlé déjà de l'existence d'un référentiel à la MIVILUDE. Et ces dossiers, elle les communique sur demande à des élus locaux ou à des personnes du monde enseignant en particulier. Alors ma seule perplexité, qui est mineure, est d'ordre linguistique. Dérive sectaire. Alors le qualificatif sectaire, s'il a d'abord été dérivé de secte, en est venu au XIXe siècle signifier tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'un sectaire depuis le XIXe siècle ? C'est une personne intolérante, d'esprit étroit, rigide, en matière politique, philosophique ou religieuse. Et à la fin du XIXe siècle, on crée sur ce mot, sur cette acception de l'adjectif, on crée sectarisme. Alors vous voyez tout de suite la difficulté. Si on veut rattacher des dérives sectaires à ce sens, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à subsumer tous les indices donnés comme sectaires. C'est-à-dire, par exemple, comment subsumer sous l'intolérance le caractère exorbitant des exigences financières. Donc on est en porte-à-faux. Et si on revient à secte, à ce moment-là, on retrouve le substantif qu'on voulait éviter. Alors, que fait donc la MIVILUDE, en réalité, après la commission Geste-Guyard ? Elle pratique, en fait, ce que Pascal et la logique de Port-Royal appellent une définition de non, à savoir qu'elle inventorie ce que l'opinion publique appelle secte. Et cet inventaire, il est indéfini. C'est pour ça qu'aux 10 critères de la commission Geste-Guyard, la MIVILUDE en a ajouté 8 autres. L'opinion publique, devant tel ou tel groupe, peut trouver un nouveau critère suspect, dangereux. Et donc, on a une définition de non qui est floue et qui donc s'oppose, dans l'esprit de Pascal et des logiciens de Port-Royal, à ce qu'ils appellent définition de non. Alors, la définition de non, c'est celle qu'on pratique en géométrie. J'appelle cercle telle figure. C'est un coup d'autorité, presque, en partie. Et ce qui nous manque pour le moment, ce que nous recherchons, donc, c'est une définition de non. Une définition précise à la manière géométrique qui définirait précisément pour tout le monde la chose désignée. Alors j'ajoute à propos de la Mivilude qu'elle abandonne tout projet de dresser une liste de sectes. Et Mme Alliot-Marie, au début de 2009, a condamné ce qu'elle a appelé une logique de liste. Pourquoi ? Parce que la liste immobilise dans la réprobation des groupes qui, par nature, sont des groupes mouvants. Vous savez, les sectes changent tout le temps de nom, elles peuvent évoluer. Donc, Mme Alliot-Marie a considéré que la liste faisait trombeau marché des libertés. D'autre part, le code pénal dispose d'un arsenal que beaucoup jugent suffisant pour réprimer les sectes. Et M. André Damien, en 1996, avait pris position, justement, en considérant qu'à l'époque, la création d'un observatoire ministériel de lutte contre les sectes était gesticulation inutile. Donc il y a toute une école, il faut le savoir, qui considère que le code pénal est suffisant. Mais malgré cela, je vais terminer là-dessus, il y a au moins une corporation qui ne peut pas se contenter de ces définitions de choses énumérées indéfiniment et qui, par métier, doivent donner une définition plus concise et, si possible, précise. Ce sont les lexicographes. Alors, sont-ils condamnés au désespoir devant la fluidité des groupes sectaires ? Ce n'est pas sûr. Il me semble que la lexicographie pourrait prendre appui sur une définition proposée par la MILS, c'est-à-dire la mission qui a précédé la Mivilude en 1998. Je vous lis cette définition. La secte est une association de structures totalitaires, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social. Voilà la définition. Alors, la formule « les droits de l'homme » inclut non seulement la déclaration de 89, bien entendu, mais aussi les conventions internationales qui ont été signées par la France. Et là, nous rejoignons un des indices retenus par la Mivilude. Alors, au terme de ce parcours, nous voyons, pour conclure, à quel point les deux acceptions anciennes du mot « secte » ont laissé des traces actives dans le sens contemporain. La secte d'aujourd'hui est hypertrophie délétère du maître. D'autre part, elle se présente fréquemment comme retrait, coupure, fermeture. Enfin, de la théorie de Max Weber, nos sectes actuelles vérifient le plus souvent l'adhésion à l'âge adulte, les exigences contraignantes et le petit nombre. Mais, et ça il faut le souligner, les groupes contemporains ont beaucoup gagné en complexité, les déviations se sont multipliées et elles ont proliféré en mettant sur le devant de la scène trois appétits fondamentaux, la toute-puissance, le sexe et l'argent. Trois termes que vous chercheriez vainement dans les travaux de Weber et de Troeltsch, par exemple. Et tout ça, c'est radicalement, enfin pas radicalement, c'est très neuf. On comprend dès lors qu'aujourd'hui, de nombreuses sectes n'aient plus rien de religieux, s'il s'agit de toute puissance, d'argent et de sexe. Bien des sectes n'ont plus rien de religieux, et la religion n'y est plus qu'un badigeant pour des groupes soucieux de respectabilité et d'avantages fiscaux. Le cas éclatant, souvent cité, celui de la scientologie, qui se déclare église, alors que c'est d'abord une thérapie, hein, qui se déclare église, qui auditionne ceux qu'elle accueille dans des salles qu'elle appelle des chapelles, qui compare ses auditions à la confession catholique, et qui, pour couronner le tout, s'est dotée d'une croix, même si cette croix est à 8 branches, on voit à peu près pourquoi on se dote d'une croix. Ces dérives, en grande partie nouvelles, sont aujourd'hui interprétées non plus par rapport aux religions, en fait, mais comme pathologie d'une société individualiste. Cette formule est de Marcel Gaucher dans Un monde désenchanté. D'autres ont parlé de métastase du corps social. Elles semblent proliférer, ces sectes, puisque l'Association de défense des familles et des individus, l'ADFI, recense maintenant 500 à 600 groupes sectaires au lieu des 172 d'il y a 15 ans. c'est dire l'urgence de réagir. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre M. Philippe Sellier, professeur émérite à Paris 1 Sorbonne, sur le thème « Qu'est-ce qu'une secte ? Essai de définition méthodologique », une communication donnée à l'Académie des sciences morales et politiques le 22 février 2010.